Et notre invité ce matin dans le 8-30, Jean-Pierre Sérus, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le vice-président en charge des transports au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec tout d'abord cette première question et ce premier constat, il ne fait pas bon prendre un TER dans notre région. On revient sur cette enquête du FC Que Choisir cet été. 15% des TER sont en retard sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et dernier coup de massue, c'est la Cour des comptes la semaine dernière qui estime que la qualité des services est dégradée, que le niveau de train déprogrammé ou annulé est préoccupant. Et il y a eu cette conférence de presse cette semaine, organisée par la SNCF PACA qui explique que finalement l'année 2023 a été difficile avec une explication, 30 à 40% des trains qui étaient en retard ou déprogrammés l'ont été en raison de facteurs externes comme des intempéries, des grèves ou des altercations, mais aussi parce que le matériel est vieillissant et qu'il faut le maintenir, qu'il y a eu des limitations de vitesse en raison des travaux. Donc au final, Jean-Pierre Sérus, si les trains sont en retard ou annulés, ça n'est pas du fait de la SNCF.
Je regrette que les choses, la question soit autant à charge. On va remettre un petit peu de l'ordre. Non, il fait très bon prendre les TER dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'enquête UNC Que Choisir date de 2023. Il ne vous aura pas échappé, il n'échappera pas à vos auditeurs, qui avaient eu des grèves à cette époque. Voilà, donc si on a reculé de 7 points entre 2022 et 2023, pour deux tiers des raisons, c'est parce qu'il y a eu des grèves. Donc la région n'est absolument pas en responsabilité sur des grèves qui en plus étaient des grèves nationales. Deuxièmement, il faut lire le rapport de la Cour des comptes. Il n'est pas du tout à charge comme vous l'expliquez, bien au contraire. Il gratifie, félicite la région pour les mesures entreprises. Voilà, nous avons pris des mesures parce que justement, nous ne sommes pas totalement satisfaits du service qui est opéré par la SNCF.
Mais c'est bien ce que...
Non, mais je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout. Donc, c'était le deuxième élément à charge. Le rapport de la Cour des comptes, j'invite vos auditeurs à le lire précisément. On nous donne crédit d'avoir fait ce qu'il fallait. Après, en troisième lieu, oui, il y a des causes extérieures sur les problèmes de ponctualité. Par exemple, il y a les bagages qui sont abandonnés. On arrête les trains parce qu'il y a un bagage abandonné. Ça prend du temps. Il y a les accidents de personnes. Tout ça fait partie d'éléments extérieurs. Ces éléments extérieurs, nous avons demandé à la SNCF qui a réagi, puisque dès 2024, nous avons repris 4 points sur la régularité. Donc, je plaide évidemment amende honorable pour les résultats de 2023 qui n'étaient pas bons. Pour le reste, non, je regrette. Nous avons, en plus, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous sommes passés entre 2015 et 2022, nous avons progressé de 11 points de régularité. Nous avons rebaissé pour les raisons que je viens d'indiquer avec les grèves de 2023. Et là, à présent, nous sommes à nouveau à plus de 91%.
C'est bien pour ça que j'allais vous poser la question. Je vous ai à réagir par rapport aux déclarations, non pas de la Cour des comptes, mais de la SNCF, qui expliquait en effet qu'il y avait tout un tas de facteurs externes qui pouvaient expliquer que l'année 2023 avait été une année particulièrement compliquée. On va prendre quand même en comparaison certains taux des trains de retard, ça c'est la Cour des comptes. Taux de trains de retard, 13% en 2019, 11% en 2020, 9% en 2021, 11% en 2022, 15% en 2024. Et vous le disiez, ça va mieux pour 15% pardon, en 2023 et ça va mieux pour 2024. Et justement, la Cour des comptes met en avant un point, c'est que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été la quatrième en France à appliquer un plus gros malus en 2023 à la SNCF. À combien s'est-il élevé? Et pour 2024, est-ce qu'on va suivre la même tendance ou pas, Jean-Pierre Sérus?
Alors, en 2023, ce n'est pas les 900 000 euros déclarés par UNC Que Choisir, mais 2,5 millions qui ont été ponctionnés à la SNCF sur la rémunération de son service de TER. En 2024, nous ferons le calcul, mais la pénalité sera ce qu'elle sera. En tout cas, dès 2023, compte tenu de ces résultats très mauvais et en particulier inacceptables du point de vue de ces jours de grève, nous avons augmenté dans la nouvelle convention avec SNCF les pénalités. En 2023, si nous appliquions les règles qui sont instituées maintenant, ça n'aurait pas été 2,5 millions, mais 4 millions qui auraient été ponctionnés. Attention, 2024, attendons que l'année soit terminée, les chiffres sont redevenus plus corrects, j'espère qu'ils seront même très corrects sur la deuxième partie de l'année 2024, et j'espère qu'on aura moins de pénalités parce qu'on aura une meilleure régularité. Vous savez, les pénalités, c'est toujours c'est pas de l'argent économisé, hein, c'est du service, c'est la traduction d'un service qui ne satisfait pas ni l'usager, ni l'autorité organisatrice.
Et par rapport à cette ouverture à la concurrence, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été la première en France à publier un appel d'offres pour deux lots en février 2020, deux lignes qui vont donc partir à la concurrence. Des avis d'appel public sont en cours pour d'autres lots chez nous, c'est-à-dire dans les Hautes-Alpes ou les Alpes-de-Haute-Provence. Ça va se faire quand, cette ouverture à la concurrence ?
Nous sommes en train. Alors d'abord, vous avez bien compris que nous avions raison d'ouvrir à la concurrence. Hein. On ne peut pas, d'une part, dire le service n'est pas de bonne qualité, pas de qualité satisfaisante, et s'en satisfaire. Bon.
Surtout que la Cour des comptes pointe aussi que Transdev propose deux fois plus d'offres avec le même montant proposé.
Bien sûr, mais même j'étais ce matin même à Nice. Ce jeudi, pour une répétition générale de ce qui se produira dès le 16 décembre de cette année sur l'étoile de Nice, je vais répondre à votre question pour les Alpes. Dès le mois de décembre, grâce à l'ouverture à la concurrence, c'est une filiale de SNCF qui a gagné l'appel d'offres sur la Côte d'Azur, et on aura une augmentation de 70% du service. On aura un train au quart d'heure toute la journée entre Cannes et Menton, par exemple. Donc, pour répondre à votre question, oui, nous avons ouvert un troisième lot à la concurrence. Il concerne la ligne des Alpes, c'est-à-dire Marseille-Briançon, l'étoile de Veynes, le Marseille-Aix. Il concerne aussi tout ce qui est entre Marseille, Toulon et les Arcs. Donc, on est en train de recevoir les réponses des différents candidats. Ensuite, c'est assez long, le temps que la commission des marchés et des délégations de services fasse le choix, que tout ça soit entériné. Ensuite, il y a 3 années de temps de mobilisation. Donc, ça sera l'opérateur retenu qui opérera à partir de 2029.
Et si je vous dis qu'il va peut-être y avoir des JO 2030, à condition bien sûr que le Premier ministre signe la garantie financière de l'État, et qu'il va y avoir une loi olympique qui pourrait peut-être accélérer cette mise en concurrence, vous me répondez quoi ?
Alors, d'abord, je veux dire que je n'ai aucun doute, et nous n'avons aucun doute, sur le fait que le document sera signé. Deuxièmement, c'est une chance extraordinaire pour nos amis alpins qui aiment leur train comme nous l'aimons, pour accélérer, mais non pas l'application de la mise à concurrence. Ce que ça va accélérer, c'est surtout les investissements sur les infrastructures. Parce que les infrastructures sont ce qu'elles sont. La région y contribue au travers des contrats de plan avec la région de manière massive. Le premier poste, c'est le ferroviaire, 40% du 1,5 milliard qui va être investi dans le cadre du prochain contrat de plan État-région concerne le ferroviaire. Et le premier poste, ce sera des infrastructures de l'étoile de Veynes. Donc, que nos amis alpins soient persuadés que nous travaillons d'arrache-pied sur l'amélioration du système ferroviaire et des infrastructures, notamment, pour les raisons que je viens d'indiquer. Les Jeux Olympiques de 2030, c'est une formidable opportunité pour accélérer le travail sur les infrastructures. En ce qui concerne l'ouverture à la concurrence, on respectera évidemment les règles que nous avons mis en œuvre pour organiser cette mise en concurrence.
Mais en tout cas, par rapport à ces JO 2030, est-ce que toutefois vous relevez des points noirs qui feront partie de ces futurs investissements espérés ?
Bien sûr, bien sûr. Il faut aller plus vite sur cette ligne. Cette ligne est ralentie de nombreux endroits. Il faut augmenter les capacités de croisement et de doublement sur la ligne, qui est une ligne unique, comme je le rappelle. Il faut améliorer les gares, en faire des pôles d'échange multimodaux mieux équipés. Il faut améliorer la signalisation. Il y a beaucoup de choses à faire, et nous avons aujourd'hui, avec d'ailleurs nos partenaires de SNCF Réseau, nos partenaires de SNCF Gare et Connexion, avec notre opérateur historique qui est SNCF Voyageurs, qui opère le service, engagé beaucoup, un des plans d'action, hein, puisque évidemment ce sont des plans d'action séparés, pour continuer à améliorer le fonctionnement de cette ligne, qui est une ligne essentielle. Hein. Vous savez, avec le président Muselier, on ne parle jamais du ferroviaire sans insister sur la ligne des Alpes. Et maintenant qu'il y a cette perspective des Jeux Olympiques, évidemment, la situation est encore plus privilégiée.
Donc, vous confirmez qu'il y a bien un plan d'action, des plans d'action qui seront mis en place. Qu'est-ce qu'on pourrait y voir? En tout cas, quelles lignes figureront pour les Hautes-Alpes? Vous parliez d'aménagement de gares multimodales. C'est-à-dire, est-ce que dans les Hautes-Alpes, il est envisagé déjà des chantiers?
Vous imaginez bien que le Briançon sera un pôle d'échange important. Les gares de la ligne des Alpes, évidemment, on travaille sur chacune d'elles. Puis je voulais dire également à vos auditeurs que nous essayons d'améliorer également au fil de l'eau. Il y a l'ouverture à la concurrence, il y a les grands travaux des Jeux Olympiques, il y a les gros projets très structurants. Mais depuis maintenant 3 ans, peu à peu, nous augmentons le nombre de services. Nous travaillons par exemple sur une amélioration du service pendulaire. Tout ça se fait évidemment à une vitesse insuffisante vue de l'usager. Je comprends l'usager. On aimerait que d'un claquement de doigts, tout soit possible. En ferroviaire, tout prend du temps. On a une ligne avec une voie unique. Encore une fois, elle mérite qu'on y fasse pas mal d'améliorations sur l'infrastructure. Donc, on ne peut pas aller aussi vite tout le temps que l'on souhaiterait le faire. Et on a déjà bien travaillé sur la gare de Gap, qui est un pôle d'échange multimodal plutôt exemplaire. On a travaillé sur la gare d'Embrun, on travaille sur la gare de Chorges. Enfin voilà, c'est un travail de tous les jours. Et je veux vraiment dire à vos auditeurs que le Conseil régional est à pied d'œuvre pour améliorer les choses. On sait l'importance qu'a cette voie pour les Alpins et les Hauts-Alpins en particulier.
Voilà, les Hautes-Alpes ne sont pas délaissées dans l'approche ferroviaire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec notamment en ligne de mire ces JO 2030. Merci beaucoup Jean-Pierre Sirus.
Je rappelle, oui, dès à présent, le premier poste, Paul, c'est l'infrastructure de l'étoile de Veynes dans le contrat de plan État-Région.
Voilà, de quoi rassurer certains. Merci beaucoup Jean-Pierre Sirus d'avoir été avec nous, vice-président en charge des transports au sein de la région.
Bonne journée.